Il est midi, nous retrouvons Olivia Gesbert.
Et nous aussi, aujourd'hui, nous serons américains, tous américains. Merci Anne, tout de suite à midi, c'est l'heure de faire un point sur l'information. Avec vous Antoine, merci, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à tous. Un attentat important aurait été déjoué hier à Paris. Une jeune femme arrêtée après la découverte d'une voiture remplie de bonbonnes de gaz se serait préparée donc à passer à l'acte après avoir prêté allégeance au groupe État islamique. Précision tout à l'heure avec Marie-Pierre Véraud. Le gouvernement annonce une baisse de 1 milliard d'euros de l'impôt sur le revenu en 2017 qui va bénéficier à 5 millions de contribuables. Le taux d'impôt sur les sociétés est ramené à 28%. C'est donc le geste fiscal attendu fait ce matin par le gouvernement, analyse d'Annabelle Grelier. Les dirigeants des pays du sud de l'Union européenne, France, Italie, Espagne, Chypre, Malte, Portugal et la Grèce, réunis aujourd'hui à Athènes pour tenter de dégager une plateforme commune, pour tenter de desserrer le carcan budgétaire européen. L'Allemagne redoute ce qu'elle appelle une coalition Club Med au sein de l'Union, correspondance avec Angélique Kourounis. On parlera de l'inquiétude qui grandit autour de l'activité nucléaire nord-coréenne, avec Pyongyang qui affirme ce matin avoir réussi à tester une tête nucléaire susceptible d'équiper un missile. Et puis la campagne présidentielle en France avec la réponse de Nicolas Sarkozy à François Hollande qui s'était hier posé en défenseur de l'état de droit. Nicolas Sarkozy affirme que c'est le droit qui doit s'adapter à la réalité de la menace et pas le contraire. Nous l'entendrons et on reparlera de tout ça avec Gilles Finkelstein, directeur de la Fondation Jean Jaurès. Voilà pour les titres, c'est à vous Olivia Gesbert, la grande table qui commence.
Première partie tout de suite jusqu'à midi et demi. Bonjour à tous, welcome America. Dans le cadre de notre journée spéciale écrire le monde moderne, l'Amérique aujourd'hui, la Grande Table vous propose de manger les airs jusqu'à 13h30 avec, dans la deuxième partie de la Grande Table, après le journal d'Antoine Mercier, un état des lieux du débat intellectuel aux États-Unis. Nos invités, Alice Béja et James Cohen, vous expliqueront ce qui est en train de changer en ce moment. Mais d'abord, 10h04, l'heure à laquelle tout peut arriver. Nous recevons ce midi le tornade Ben Lerner pour son roman cyclonique 10h04 qui paraît aux éditions de l'Olivier. Heureuse de vous retrouver ce vendredi jusqu'à 1h30 ou à toute heure sur franceculture.fr et sur les réseaux sociaux puisque la Grande Table se tweet, se like et se podcast aussi, mais oui.
La Grande Table. Olivia Gesbert.
Natif du Kansas, il a élu domicile à Brooklyn. L'ami américain, l'écrivain Ben Lerner est notre invité ce midi. Il publie en cette rentrée aux éditions de l'Olivier 10.04, donc 10h04, où l'horlogerie intérieure déglinguée de Ben, écrivain en panne d'aspiration. Bonjour à vous, Ben Lerner.
Hello.
Et bonjour à vous, Harold Manning.
Bonjour.
Alors vous serez ce midi la voix de Ben Lerner. On fait un petit essai. On va tenter, regardez. Ben Lerner, est-ce que vous voulez nous dire quel temps il fait dans votre tête aujourd'hui?
Le temps politique, le temps littéral, le temps littéraire, voulez-vous dire, la météo?
En radio, quand on fait des essais de micro, en fait, on parle toujours du temps qu'il fait dehors, juste pour voir simplement si nos voix s'ajustent bien avec la radio. Donc là, soit vous pouvez nous parler du temps qu'il fait à Paris, où vous venez d'atterrir à l'instant, soit vous pouvez nous parler du temps qu'il fait dans votre tête, à vous, Ben Lerner.
Dans ma tête, c'est très nuageux parce que ce vol a été difficile, mais le temps à Paris semble très beau à travers cette fenêtre.
Bienvenue à vous en tout cas. Ben Lerner, quand vous n'écrivez pas, vous enseignez. La littérature, ça s'apprend, Ben Lerner, et l'écriture aussi.
Je crois que c'est possible d'aller plus loin dans votre relation à la langue, toujours. Je crois qu'il est possible de lire et d'écrire en compagnie, de façon à produire un environnement dans lequel la langue peut se trouver malaxée et perturbée. Mais je ne crois pas que c'est en classe que l'on devienne ou pas un écrivain, non. Mais j'ai la chance de pouvoir vivre de ça et de pouvoir parler à plusieurs groupes et parler de langue avec eux.
Beaucoup d'écrivains américains sont passés par des cours d'écriture parce que le récit, on apprend aussi à le construire, et les phrases également. C'est quelque chose qui est très tabou en France, hein, où on pense que l'écriture ne peut être qu'un un talent qui s'acquiert par la volonté de Dieu et éventuellement par un peu de travail, mais en tout cas pas dans des cours. Vous êtes un autodidacte complet de l'écriture.
C'est une question intéressante.
Je crois que toute personne qui est un écrivain sérieux est quelque part un autodidacte. Parce qu'il ne s'agit pas de maîtriser les canons de l'écriture. Il s'agit plus de développer une constellation étrange, bizarre, idiosyncratique, qui est votre propre voix. Mais j'ai beaucoup appris, cependant, dans une classe ou de regarder et d'écouter des artistes qui parlent de leur travail. Donc c'est possible. Ces cours de littérature sont intéressants quand ils sont à la fois légers et rigoureux. Chacun apporte ses demandes, ses intensités, ses tous ses sentiments. Alors que personne ne peut dire et prétendre qu'il existe un programme à suivre pour devenir écrivain.
En tout cas, dans ce roman, Ben Lerner, 10h04, votre écriture est complètement perturbée et la construction du récit est complètement déstructurée. Donc je ne sais pas où vous avez appris à écrire, mais en tout cas, vous avez su mettre de côté ces enseignements pour faire cet ouvrage qui est très personnel. Ben Lerner, vos premiers mots couchés sur le papier formaient de la poésie. Vous êtes d'ailleurs l'auteur de 3 recueils non traduits en France et on retrouve dans votre premier roman, Au départ d'Atocha, du nom de la gare madrilène, cette figure de l'apprenti poète. On a souvent dû vous demander si votre héros générationnel, anti-héros malgré tout, Adam Gordon, était votre double fictionnel. Moi, j'aimerais plutôt savoir si ce deuxième roman confirme que vous avez acquis comme lui une certaine confiance dans l'écriture, plutôt comme romancier d'ailleurs que comme poète.
J'ai l'impression qu'il s'agit d'un livre qui parle de quelqu'un qui essaie de vivre sa vie sans ironie. Il essaie de trouver le moyen d'aider une amie à avoir un enfant. Sera-t-il père ? Sera-t-il un donneur de sperme seulement ? Sera-t-il enseignant ? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour lui de devenir un citoyen honorable dans un paysage politique dévasté? Il essaie aussi de savoir s'il est possible pour lui de produire de la littérature qui soit en accord avec son temps, qui soit valable, qui ait un sens dans son époque. Je crois que tout livre écrit à la première personne, là où le protagoniste est l'auteur, est l'écrivain, est la voix première, c'est toujours une question de... L'enjeu est toujours de trouver la bonne langue, les bons mots, la langue propre de ce personnage, qui puisse trouver une authenticité et puisse retranscrire quelque chose de notre monde d'aujourd'hui. Alors je ne sais pas si vraiment à la fin il a une vraie confiance en lui, cet écrivain, c'est quelqu'un plein d'anxiété. Mais certainement, il a avancé. Et il arrive à une littérature qui est une sorte de désespoir stylisé. Et il essaie de produire une littérature qui essaie d'imaginer l'avenir à partir du présent.
Mais ma question portait sur vous, Ben Lerner. Est-ce qu'entre votre premier roman, que l'on a traduit en français Au départ d'Atocha, et ce roman, 10h04, vous avez gagné en confiance comme romancier, peut-être plus qu'en poète?
Oh, that's an interesting question.
Ça, c'est une question intéressante aussi. Je me considère comme un poète d'abord. Moi, 10h04, c'est quelque chose qui, finalement, s'est construit autour d'un poème. Je pensais que j'allais travailler sur un nouveau recueil de poèmes. J'ai écrit un long poème qui est devenu qui est maintenant cité à l'intérieur de ce roman.
This fictional frame kind of grew up around it.
Mais il y a toute cette fiction qui s'est finalement construite et agrégée autour de lui. Peut-être que le meilleur et le pire dans l'écriture, pour moi, c'est que jamais on arrive à devenir confiant, à avoir confiance en soi. J'ai un bon ami qui fabrique des éléments.
And he's really confident that he can always make the next cabinet, and it might not be a masterpiece.
Et lui, à chaque fois, quand il fabrique ses objets, il sait très bien qu'il gagne de la confiance parce qu'il gagne de l'expérience. Il sait que le nouveau sera meilleur.
But having written a novel or having written a poem never
Mais
guarantees that you're going to
write. D'avoir écrit un roman, d'avoir écrit un poème, ne vous garantit absolument pas d'être un meilleur écrivain. Il faut découvrir à chaque fois, et à chaque fois, ça se découvre dans l'acte d'écrire.
So I don't know. I don't know if the next thing I'll write.
Donc je ne sais pas ce qui arrivera après. Je ne sais pas ce qui ce sera un roman ou une pièce ou rien.
And that's both exciting.
Et c'est à la fois enthousiasmant
and a little vertiginous.
Et c'est vertigineux à la fois.
Et en même temps, c'est un récit polyphonique, hein, et ce 10h04 Ben Lerner. Il y a de la poésie dedans, il y a de la photo, il y a évidemment du récit, il y a des extraits de correspondance, des peintures. On a l'impression que vous n'aimez pas choisir entre toutes ces formes, ou alors que vous estimez peut-être tout simplement que vous n'avez pas à le faire.
Oui, le roman, c'est que ce qui est fantastique avec le roman, c'est que c'est une forme élastique qui peut assimiler d'autres formes. Et c'est vrai dans toute l'histoire du roman. Les chansons, il y en a dans les romans. Des poèmes, on en trouve dans les romans. Pour moi, c'est cette qualité d'absorption qui permet d'incorporer d'autres genres dans une architecture romanesque qui en fait une forme tellement enthousiasmante. Alors, c'est pas que je pense qu'on puisse mettre n'importe quoi dans un roman. Mais le roman peut devenir une constellation de matériaux différents qui aboutit à une somme qui soit plus forte que la simple addition de tous ces éléments. Et c'est ce genre de fondation radicale du roman qui existe et qui a été un peu perdu dans le roman d'aujourd'hui.
Et vous, le cinéma, la peinture, les expositions, les livres, la poésie, tous ces univers artistiques vous nourrissent autant dans la vie que ces univers nourrissent votre personnage, Ben, dans 10h04 ?
Oui, je crois. Je suis quelqu'un du verbe. La langue a toujours été mon terrain. Et la façon dont j'écris les romans vient sans doute du fait parce que je suis ému par la langue des gens, les mots qu'ils prennent pour décrire de l'art. Tout autant que je suis ému par l'art lui-même, par les œuvres. J'aime bien tous ces supports, mais c'est la langue qui, pour moi, est la fondation des choses.
Vous êtes un homme du verbe, mais on est quand même à l'époque des images. Et on les retrouve, je le disais, à ceux qui nous écoutent aussi dans cet ouvrage. Reste que, dans 10h04, votre héros, lui, est un écrivain en panne d'inspiration, hypochondriaque, en proie à une sorte de doute permanent, un trentenaire qui réfléchit beaucoup, mais qui ne dit pas toujours ce qu'il pense, un gars ordinaire, un peu lost in translation, comme dirait votre consoeur cinéaste Sofia Coppola. Mais lui, il est perdu dans son époque et dans son univers, dans son lieu, chez lui, à Brooklyn. Pourquoi est-ce qu'il se sent si étranger à lui-même, Ben, votre héros ?
Je crois que c'est vraiment un état des gens aujourd'hui, état contemporain des gens. Qui peut bien donc croire le discours politique mainstream aujourd'hui ? À part quelques fondamentalistes, qui peut croire que le capitalisme est juste ? Qu'est-ce qu'on fait si jamais on veut avoir des enfants dans un monde où le climat change ? Je crois qu'il finalement il a une conversation sans cesse avec lui-même. Il est en désaccord avec lui-même. Ça veut dire aussi qu'il est plein de désir d'agir dans ce monde sans fausseté. Le roman est particulièrement approprié pour parler de la conscience, de la voix intérieure.
And then the disconnect between our internal experience
et
and the outside
cette
world.
Disconnexion entre notre propre monde interne et le monde extérieur.
Sometimes that's, it has a comic effect.
C'est quelque chose qui peut être comique.
Sometimes it has a kind of tragic effect.
Parfois tragique.
But for me, the novel has always been about a kind
Mais
of search for
le roman, c'est ça pour moi. C'est une recherche, essayer de trouver sa voix.
And to think and to act.
Et d'essayer de parler et d'essayer d'agir
in a fragmented world.
Dans un monde qui n'est que fragmenté.
Il se passe quoi à 10h04 dans sa vie ou dans nos vies? Est-ce que c'est l'heure du grand chambardement météorologique et psychologique pour vous, 10h04?
10h04, peut-être vous le savez, c'est le moment dans Retour vers le futur, le film, ce fameux film que j'ai vu quand j'étais jeune, où l'éclair frappe la tour avec l'horloge, ce qui permet à Michael J. Fox de retourner dans le présent. Et ça, ce livre, je crois que c'est un livre qui parle beaucoup justement du temps. Le narrateur a un problème cardiaque. Il est inquiet du temps biologique qui lui reste. Ses professeurs sont en train de mourir et il s'imagine le pire. Il a une amie qui va accoucher et donc il se pose plein de questions sur ça. 10h04, c'est une question d'essayer de mettre ensemble le temps et l'art dans le même moment.
Musique de Retour vers le futur de Robert Zemeckis. Votre héros, Ben Lerner, est un cyclotimique chronique. Vous l'évoquiez, cette tempête le pousse incessamment vers l'avenir auquel il tourne le dos. Vous citez par ces mots l'historien de l'art Walter Benjamin. Le héros, parfois, ne sait plus ce qu'il a vécu ou pas vécu. Il a pas mal d'instants de flottement comme ça dans sa vie. Est-ce que c'est un homme qui tourne le dos à l'avenir ?
I don't think so. I mean, I think it's a book about him facing the future.
Je crois qu'au contraire, le livre le voit en train de faire face à l'avenir.
But you're right that this is a book about the way fact becomes fiction.
C'est un livre où quelque part les faits, la vérité devient fiction.
And the way fiction has real effects in our lives.
Et la fiction a un vrai effet sur nos vies.
Stories we tell about our past.
La façon dont nous racontons notre passé.
And the stories we project about the future.
Les histoires dans lesquelles on se projette dans l'avenir, elle détermine ces histoires votre présent. Et quand il marche dans la ville, en imaginant comment ce sera pour lui d'être père, la ville devient différente que si jamais il traverse la ville, il se balade dans la ville en se racontant une autre chose pour son avenir.
D'une
certaine façon, il essaie de savoir quelles sont les histoires qu'il peut se raconter et qu'il peut raconter qui rendent son présent le plus vivant pour lui. Dans ce sens, nous ne vivons que par des fictions.
Vous nous disiez tout à l'heure que dans ce côté étranger, cette difficulté à se trouver lui-même, il était quand même à l'image de toute une génération. On commémore ce week-end aux États-Unis, notamment les 15 ans du 11 septembre. Est-ce que vous pensez que cette date, ces événements, cet attentat, a été un tournant dans nos vies à tous? Et ce qui explique aussi que cette génération qui arrive aujourd'hui soit si déboussolée?
Pour moi, c'est sûr que c'est un moment historique, c'est un pilier de l'histoire. À cause des pertes ce jour, mais aussi, et plus encore, à cause de la politique horrible et des discours qui sont apparus à la suite. En tant
that September 11th marks for me,
qu'écrivain, le 11 septembre, pour moi, c'est ce moment dans la politique américaine, sous le couvert du patriotisme,
a total historical memorylessness,
qui est vraiment une perte de mémoire historique totale.
So, you know, vous
savez,
Iraq because they supposedly
on a
have weapons
envahi
of mass destruction.
L'Irak puisqu'il devait y avoir des armes de destruction massive là-bas.
Or it's the rise of Fox News,
ou alors
Fox
c'est la progression de Fox News et la Fox Newsification de notre langue et de nos informations.
So my generation of writers,
ma génération d'écrivains
has to write in response
doit
to the
écrire en réponse à cette évolution de la langue.
But certainly everyone who lives in New York,
mais je pense que tout New-Yorkais
experiences the city as fragile in a way that we might not have
vit aujourd'hui dans une ville plus fragile que celle dans laquelle nous vivions auparavant.
And there are fundamentalisms on all sides.
Les fondamentalismes existent de tous côtés.
Of xenophobia,
la xénophobie.
Of extreme wealth that cares about no other value.
Les gens extrêmement riches qui se fichent complètement des valeurs.
And of course, religious fundamentalism.
Et bien sûr, le fondamentalisme religieux.
And surely all those things touch my generation.
Et toutes ces choses-là touchent ma génération d'une façon ou d'une autre.
Vous avez le sentiment, c'est ce que vous nous dites, que vous avez une forme de responsabilité générationnelle. Mais je ne comprends pas exactement comment vous percevez le rôle de l'écrivain dans tout ça. Vous dites à travers la langue.
Yeah, I mean the real answer is I don't know.
Oui, vous savez en vérité au fond, j'en sais rien.
That is, I think art has to always be something that doesn't have a program.
L'art quelque part ça ne doit jamais être un programme, ça ne doit jamais être programmatique.
If it has a program, I think
si jamais c'est programmatique, cela cesse d'être de l'art.
I guess I would say that I
Je
think
dirais
the writer
que l'écrivain pour
is
moi
somebody who presents
est quelqu'un qui
the contradictions
présente
of a moment
les contradictions de son époque.
In a way that can make them intensely
d'une façon
felt.
Qu'elle puisse être ressentie intensément par
But
le lecteur.
Instead of offering false solutions to those contradictions.
Au lieu d'essayer de présenter des solutions fausses à ces contradictions.
And that's both on the one hand very limited.
Et d'une certaine façon, c'est assez limité.
You know, I don't think writing
Je
ne
pense
novel,
pas que
even
l'écriture d'un roman,
a very fine novel changes the world.
Même s'il est très bon, changera le monde.
But I think if you try to
Mais je pense que si on essaie d'imaginer le monde
without the faculties that are exercised by art,
sans l'art et sans ce que l'art peut y apporter,
Then we're really doomed.
Alors là, vraiment, on est mal barré.
On arrivera peut-être, grâce à l'écriture et l'art, à se sentir un tout petit peu mieux, feeling good. Journée spéciale l'Amérique aujourd'hui avec l'écrivain Ben Lerner, notre invité, sa voix française, Harold Manning, et la chanteuse Lauren Hill, une compatriote. Ils sont tous sur France Culture, bien sûr.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Woo. And I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies are having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this whole world is a new world and a world for me.
Et vous, Ben Lerner, vous aimez autant Nina Simone que votre personnage dans 10h04.
Nina Simone, do you
Oh yeah, and Nina Simone is in several of my books.
Nina Simone apparaît dans plusieurs de mes livres.
Elle apparaît aussi dans 10h04, qui vient de paraître aux éditions de l'Olivier Ben-Lerner. Après des années de galère, le retour très attendu de Lauryn Hill avec cette reprise de Feeling Good de Nina Simone, l'ex-chanteuse des Fugees sera en concert ce soir à 20h30 sur la grande scène de la fête de l'humanité à la Courneuve. Voilà, c'était spécialement pour vous, une compatriote. Vous nous parlez beaucoup de ces tempêtes intérieures de votre personnage Ben-Lerner, mais on a l'impression que c'est aussi ça que vous avez voulu faire, essayer de rendre compte quelque part de tous ces petits moments où nous-mêmes, on est plongé dans nos pensées, nos imaginaires, où on a ce petit diable, ce petit ange qui bataille ensemble pour essayer de trouver des solutions. On est tous un peu confrontés quelque part avec nos propres névroses. Est-ce que c'est ça qui nous fait avancer ?
Je n'ai pas une grande sagesse, vous savez, pour vous dire qu'est-ce qui vraiment nous fait avancer dans la vie. Mais ce que je sais, c'est que nos personnalités sont tissées, sont vraiment un tissu de toutes ces voix différentes, qui sont vraiment une des voix plurielles. Et ça peut vouloir dire qu'on essaye.
But that's also the richness of being alive.
Mais c'est ça aussi finalement l'essence et la richesse d'être en vie, c'est d'essayer.
In which you're always collaging all kinds of different materials.
On essaie toujours finalement dans la vie de faire se rencontrer, de faire fonctionner ensemble des choses éparses.
You're collaging every time you say
on fait
I.
un collage de soi-même chaque fois que l'on dit « je ».
Et
à mon avis, la poésie et le roman sont tous les deux des formes qui sont des chances, des occasions de rendre compte de toute cette diversité. À l'opposé de d'autres domaines de nos vies, dans lesquels on est tout le temps sous la pression de devoir être un. Il y a là une force de liberté dans toutes ces voix, dans ces voix multiples.
Et dans cette dialectique entre notre intériorité et ce qui se passe à l'extérieur, c'est ce que vous nous avez aussi bien raconté, Ben-Lerner, avec vous. On voit ce que le réel fait au roman et inversement ce que le roman peut nous dire du réel. Le roman s'appelle 10h04. Il est paru fin août aux éditions de l'Olivier. Un grand merci à vous, Ben-Lerner. Vous serez également, je le dis pour ceux qui nous écoutent, l'un des invités du week-end Paris-New York du Théâtre de la Ville, dédié à la littérature new-yorkaise. À noter sur vos tablettes, rencontre avec Ben-Lerner prévu le samedi 8 octobre à 14h au Théâtre des Abbesses. Dans la deuxième partie de la Grande Table, nous retrouverons Alice Béja et James Cohen pour poursuivre une conversation entamée à l'instant avec Ben-Lerner, La vie des idées outre-Atlantique. Merci beaucoup à vous, Harold.
Thank you very much.
Merci.
Merci beaucoup.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.